éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Axel Kahn, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans le studio de Canal Académie au cœur de l'Institut de France. Vous êtes généticien, directeur de recherche à l'INSERM, directeur de l'Institut Cochin, bien sûr membre de l'Académie des sciences et depuis le 20 décembre 2007, président de l'Université Paris-Descartes. Vous nous faites l'honneur de venir dans notre studio pour un éclairage consacré à votre trilogie, une approche à la fois scientifique et philosophique de la nature de l'homme et de la valeur de ses actes. Alors, les titres de vos trois ouvrages, pour deux d'entre eux, ce sont des questions. Et l'homme dans tout ça, raisonnable et humain. Et enfin, troisième volet, paru en 2007 aux éditions Niels, L'homme se roseau pensant. Les deux précédents livres ont été réédités aux éditions de Poche et Pocket. Alors, à partir de votre premier ouvrage, nous parlerons de la place de l'être humain parmi les autres êtres vivants, l'occasion d'évoquer les racines du racisme, des droits de l'homme, de sa légitimité à toucher ou non aux embryons ou aux autres êtres vivants, tels que les végétaux génétiquement modifiés, en d'autres termes, les OGM. L'homme rêve de posséder tous les pouvoirs, de dominer la nature, à commencer par la sienne. Il y parvient presque, mais comment peut-il déterminer ce qu'il convient de faire tout en restant raisonnable et humain? Titre de votre deuxième livre, Axel Kahn. Nous évoquerons donc dans une deuxième partie l'homme devant la mort, qu'il s'agisse de sa peur ou de son envie, d'une liberté réelle ou non. Nous parlerons de l'humain et de l'inhumain. Vous nous en direz plus, notamment sur le pré-câblage neuronal qui nous rend si permissifs au mal. Et enfin, l'homme se roseau pensant, citation des pensées de Pascal, et titre de votre troisième livre, qui est un scénario plausible des processus évolutionnistes, président à l'émergence de la conscience, l'occasion de nous intéresser aux capacités cognitives de l'homme et des animaux, et du rapport que nous entretenons avec nos semblables. Une chose systématique dans cette trilogie, Axel Kahn, vous expliquez toujours avec soin pourquoi vous donnez de tels titres à vos ouvrages. Le premier est l'homme dans tout ça, emprunté à un gréviste enseignant lors des manifestations de 1995, raisonnable et humain, qui figure dans une lettre de votre père, et l'homme se roseau pensant, citation de Pascal. Axel Kahn, pourquoi vous appuyez sur les citations des autres pour trouver les titres de vos livres?
Je traite de l'homme. Je traite de la continuité du fait humain. Et la meilleure manière d'indiquer très clairement que j'en traite est de prendre le relais d'une citation, d'une injonction dans le cas de mon père, d'une citation dans le cas de Pascal. Et toute ma réflexion insiste sur la dépendance qui est nôtre de notre rapport à autrui, du regard d'autrui. Par conséquent, je commence par autrui.
Alors, commençons par votre premier livre, « Et l'homme dans tout ça ». L'homme est-il un loup pour l'homme, Axel Kahn?
Oui, l'homme est un loup pour l'homme. C'est la citation de Hobbes, tout le monde se le rappelle. Mais si l'homme est un loup pour l'homme, il est spécifique en cela, parce qu'il faut rappeler que le loup est guère un loup pour le loup. Les loups ne se mangent pas entre eux. Ils se mettent ensemble pour manger une proie, et il faut vraiment que les circonstances soient exceptionnelles pour que les loups s'entre-déchirent, alors que les hommes sont capables totalement de s'entre-déchirer. Il y a donc vraiment une spécificité de la violence humaine, et cela est la contrepartie de ce qui nous fait homme, ce à quoi j'ai fait allusion lorsque vous m'avez demandé pour quelles raisons les titres de mes ouvrages étaient toujours des citations ou en tout cas des phrases prononcées par d'autres, des injonctions paternelles. C'est que je ne peux prendre conscience de moi-même qu'à travers le regard de l'autre, le vôtre par exemple. Par conséquent, je vais me demander ce que vous pensez de moi. Je vous vois là, vous me regardez, interloqué, et votre regard ne me laisse pas indifférent, puisque c'est ainsi que je sais l'idée que vous avez de moi, et de l'idée que vous avez de moi découle un peu l'idée que j'ai de moi-même. À un moment donné, ça a été très très important. Et ça amène à plusieurs caractéristiques. Imaginons que votre regard m'indique que je suis pour vous un être médiocre ou quantité totalement négligeable. Sans doute vais-je vous haïr, et peut-être même vais-je tenter de vous agresser, de vous tuer. Ou alors, comme je vous prête des pensées, des idées, je peux être violent parce qu'il me semble que vos pensées sont mauvaises. Et évidemment, seul l'homme est capable de tuer un autre être à cause de ses pensées. Troisième élément, tout à fait important, contrepartie de la liberté, c'est que je peux, à un moment donné, me féliciter de la peur que je vous inspire. Et donc, vous voyez, ce sont des formes d'extraordinaire violence qui ne peuvent être qu'humaines.
Et finalement, nous n'existons qu'à travers le regard des autres et à travers ce qu'ils pensent de nous.
On sait très bien, avec l'épisode des enfants sauvages, l'un des mieux connus en France, c'est celui de Victor de l'Aveyron, qui a été décrit par le docteur Itard, l'ancien docteur de Napoléon. Mais il y a de nombreux autres exemples montrant qu'un enfant ayant toutes les caractéristiques biologiques, neurobiologiques, génétiques pour être, le cas échéant, dans un milieu favorable, un enfant et un adolescent et un adulte extrêmement brillant, ne devient rien de tout cela. Tout simplement parce que dans une atmosphère, dans un milieu uniquement animal, dépourvu de cet échange humanisant avec un autre, il est incapable de faire prospérer les potentialités de son génome. Donc, en effet, pour arriver à utiliser notre génome humain afin de devenir une personne humaine, il faut que l'échange avec un autre nous le permette. Et c'est ce pourquoi la notion d'une humanité réduite à l'unité, indépendamment des soucis de la reproduction, ne peut pas exister. C'est totalement impossible. Un être humain seul n'est simplement pas humain car il en faut un autre pour qu'il s'humanise, quand bien même il a les gènes lui permettant, le cas échéant, dans cette interaction mutuellement réciproque, de s'humaniser. Nous sommes totalement dépendants de l'autre. Marx disait, l'homme et la société de l'homme, il n'avait pas entièrement raison, mais naturellement, il n'avait pas entièrement tort.
Alors, vous parlez de l'homme et du rapport avec ses semblables. Comment explique-t-on finalement, puisque l'homme a besoin des autres pour vivre, comment expliquons-nous cette notion de racisme qui n'est finalement qu'une... On parle de racisme alors que finalement, c'est une question de pigmentation de la peau, comme vous l'expliquez dans votre premier livre.
En effet, l'origine du racisme, c'est sans doute, je pense, l'ethnocentrisme. Il y a plusieurs mécanismes qui conduisent au racisme, mais l'origine psychologique, l'aptitude au racisme, c'est l'ethnocentrisme. On dépend de l'autre, mais il y a ceux dont on dépend et ceux dont on ne dépend pas. Dans la cellule tribale initiale, le groupe, les êtres au sein de la tribu s'humanisent l'un l'autre. Mais la présence de ceux à l'extérieur du groupe importe peu de ce point de vue-là, puisque les autres, on n'interagira jamais avec eux. Si bien que les membres du groupe, et on le voit encore dans de très nombreuses tribus, se désignent d'un terme qui, dans leur langage, signifie habituellement les humains, les êtres humains, les hommes. Sous-entendu, ceux de l'extérieur du groupe ne sont pas hommes. Et puisqu'ils ne sont pas hommes, on n'est pas du tout tenu à avoir à leur égard les devoirs, la réserve, la considération que l'on a pour les siens. Et c'est certainement l'une des bases, l'un des mécanismes du racisme, les gens étranges qui viennent de l'étranger, dont on n'a pas besoin, qui sont ceux de l'extérieur, éventuellement sont dépourvus dans la psychologie de ces attributs qui sont ceux des miens. Il y a les miens et puis il y a les autres. Et l'on peut développer un racisme envers les autres. Alors, il y a d'autres éléments, naturellement. Un autre élément peut être la frayeur, la peur. L'autre est inconnu. Il peut être un danger. Il y a le mal-être, le mal-vivre, ce que René Girard appelle le syndrome du bouc émissaire. Les autres, dans une banlieue, un faubourg difficile, où les femmes et les hommes vivent mal, si on arrive à considérer qu'ils sont responsables de nos malheurs, il y a comme un exutoire, ce sont les boucs émissaires tout trouvés. Donc il y a plusieurs ressorts, mais sans doute la base à l'universalité de l'aptitude de l'homme à être raciste, c'est l'ethnocentrisme. Et vous voyez, ça n'est pas du tout contradictoire avec la dépendance de l'autre au sein du groupe, avec dépendance des siens.
Parmi les exemples que vous citez dans votre premier livre, vous parlez d'Aristote, qui déjà à l'Antiquité fait des références racistes en disant que les Européens étaient courageux mais sots. À l'inverse, les Asiatiques étaient intelligents mais manquaient de courage. Et en revanche, les Hellènes, eux, qui étaient au milieu, combinaient les deux avantages. Vous parlez également d'un livre qui est paru en 1994 aux États-Unis et qui s'appelle La courbe en cloche, The Bell Curve, et qui parle du quotient intellectuel. Y a-t-il un risque à parler de quotient intellectuel et de catégoriser les gens suivant leur quotient intellectuel ?
Parler de quotient intellectuel en soi ne devrait pas être risqué. Le quotient intellectuel est un paramètre psychométrique qui a été inventé initialement par des pédagogues, par Binet en l'occurrence, c'était les échelles de Binet initialement, afin de prévoir parmi les enfants ceux qui auraient une difficulté scolaire, de telle sorte que l'on puisse les aider particulièrement. Donc cela partait d'une idée extrêmement généreuse et il n'y a aucun doute qu'existent des tests psychométriques prédictifs de la facilité avec laquelle un enfant poursuivra ses études. Donc, en soi, il n'y a rien de répréhensible. Si ce n'est que, autour de cette notion de quotient intellectuel, l'idéologie qui est très ancienne, indiquant que les qualités des personnes sont des faits de nature, toute l'aristocratie est basée sur la notion de l'hérédité des qualités. Naturellement. Donc, on va en conclure facilement que le quotient intellectuel est lui aussi héréditaire. Et comme les lignages favorisés, aristocratiques ou les races favorisées, sont supposés avoir une qualité supérieure à celle des lignages des races plus défavorisées, inférieures, on va dire également que ce quotient intellectuel est discriminatoire, discriminatif de l'un et de l'autre, etc., etc. C'est-à-dire que ce paramètre pédagogique a été très rapidement inclus, bien entendu, dans une idéologie raciste et il avait la fragilité pour se faire.
Donc effectivement, dans ce livre, on voit les quotients intellectuels est de 110 pour les Asiatiques, 108 pour les Blancs, 100 pour les Hispano-Américains, 80 pour les Noirs. Et ça aboutit à une conclusion qui est de qu'il ne sert à rien de lancer des plans éducatifs et sociaux chez les minorités.
Donc, ça, effectivement, c'est effectivement le livre The Bell Curve, La courbe en cloche, d'Ehrenstein et de son compère, dont j'ai oublié le nom. Il s'agit d'affirmations qui sont, en tant que données scientifiques, fausses, qui peuvent être totalement disqualifiés. D'abord, il dit que, en effet, les jaunes, c'est 110, les WASP, les blancs américains, c'est 108, les latinos, c'est 100, et puis les afro-américains, c'est 92, quelque chose comme ça. D'un point de vue purement génétique, c'est ridicule, puisque prenons les latinos. Les latinos ont du sang européens et indiens d'Amérique latine. Or, les Indiens, ils viennent des jaunes à 110. Les Européens, ce sont les Italiens, c'est l'Empire romain, c'est Rome, c'est Venise, que sais-je encore, c'est l'Espagne. Génétiquement, l'idée que la rencontre de ces deux peuples aurait génétiquement produit une population de qualité inférieure aux autres est totalement stupide. Autre élément, on peut très bien montrer que les quotients intellectuels ont été créés par une civilisation, une culture, la culture blanche, occidentalisée, occidentale, citadine, afin de déterminer l'aptitude des écoliers à se couler dans ce moule culturel. Est-ce qu'il s'applique absolument aux capacités merveilleuses d'un autre moule culturel ? C'est pas sûr du tout. Bien entendu, personne ne peut le dire. Troisièmement, malgré les précautions que prétendent avoir prises les auteurs, il est totalement impossible d'écarter l'influence culturelle sur le quotient intellectuel. Et l'expérience a été faite par des Américains, en l'occurrence d'autres Américains, montrant que si on prend des enfants de milieux difficiles, on les sépare à l'âge de 2-3 ans en deux groupes. Dans les deux cas, on les aide, c'est-à-dire qu'ils sont suivis régulièrement, on leur prodigue des soins de santé, on améliore leur survie. Mais il y a un groupe tiré au hasard qui est soumis à une stimulation intellectuelle particulièrement intense. Au bout de 5 ans ou 6 ans de cette différence, l'écart de quotient intellectuel atteint 8 points. 8 points. On voit bien que le quotient intellectuel calculé, quoi qu'on en dise, dépend naturellement de ce que l'on appelle aujourd'hui l'épigénèse, c'est-à-dire de la plasticité du cerveau. Et on comprend bien dès lors que le fait d'être un enfant de population défavorisée, elle-même de culture faible, dont la qualité culturelle des échanges avec les enfants va en être amoindrie pour autant, plus tous les désordres de la structuration familiale, la entre guillemets, culture de la rue, etc., etc., peut aboutir à des adolescents, à des adultes, dont le quotient intellectuel est naturellement inférieur en moyenne à celui de l'enfant de la bourgeoisie supérieure, WASP, aux États-Unis. Donc, ce sont des conclusions qui sont totalement absurdes.
Oui, tout dépend de la stimulation ou non des parents. Dans ce premier livre, vous parlez également des droits de l'homme, une large partie accordée aux droits de l'homme, et vous citez James Watson, qui est prix Nobel, qui était venu en 95 ici à l'Académie des sciences, et qui s'était exprimé sur les droits de l'homme en disant que l'homme n'a pas de droits, mais des besoins élémentaires de nourriture, d'éducation, de santé. Tout cela ne change pas, alors que les droits, eux, varient d'un pays à l'autre, d'une époque à une autre.
Notre période, notre temps moderne, est anti-humaniste. On a l'impression que l'humanisme est partagé par tout le monde, ce n'est pas vrai du tout. Il s'agit d'un sentiment qui est devenu très minoritaire. Chez les non-croyants, les grands livres à la mode, c'est l'erreur de Descartes, Spinoza avait raison, c'est le discours de Watson, ce sont les affirmations de Foucault et de l'école philosophique contemporaine, indiquant que l'homme est mort après que Nietzsche a dit que Dieu l'était, etc., etc. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'homme est défini par des mécanismes neurobiologiques, il a effectivement des besoins comme n'importe quel être vivant, il n'a rien d'exceptionnel aux yeux de l'évolution, il est un avatar de l'évolution comme la mouche du vinaigre, le ver de terre ou comme la souris. Pour quelle raison limiter des droits spécifiquement à l'homme? Et ce que disait là Watson est assez largement partagé en réalité. Il y a même un mouvement qui est celui de la libération animale que l'on retrouve dans l'écologie profonde qui indique que l'humanisme, la pensée des droits de l'homme, l'humanisme doit être moralement disqualifié comme un spécisme. Et il faut entendre spécisme dans le sens que l'on donne à racisme. La prétention illégitime à la domination d'une race sur une autre, on en a parlé, ou sexisme, de prétention également illégitime à la domination d'un sexe sur un autre. Le spécisme serait la prétention absolument gratuite à la domination d'une espèce, l'espèce humaine, sur les autres. Si bien que Watson ne fait qu'exprimer une opinion assez largement répandue. Quant à moi, je me fais fort de rétablir en raison en indiquant ce qui fonde ma conviction, l'évidence des droits particuliers de l'homme.
Alors, justement, il y a donc les droits de l'homme. Quels sont les droits pour l'embryon? Quels droits doit-on lui conférer ou pas? Je crois que la Grande-Bretagne a résolu, entre guillemets, le problème en disant que l'embryon devenait humain à partir du 14e jour. De ce fait, ça règle pas mal de soucis en ce qui concerne peut-être le travail sur les cellules souches embryonnaires. Qu'en est-il ici pour la France? Et je vous pose la question, d'autant plus que vous étiez membre du Comité consultatif national d'éthique.
On ne peut pas parler comme cela des droits de l'embryon comme on parle des droits de l'homme. En effet, profondément, les droits de l'homme sont fondés sur la spécificité des droits d'un être qui peut se dire responsable et se déclarer des devoirs. Même si l'homme est un produit de l'évolution, et moi je suis agnostique et j'en suis totalement persuadé, il n'empêche que l'évolution l'a doté d'une capacité d'être un être de devoir et de se savoir responsable non seulement de ses semblables, mais également de la protection de la vie animale, de l'environnement, même s'il se comporte plus souvent de manière irresponsable que de manière responsable. Et le reste de la nature, y compris d'ailleurs les grands singes, qui ne sont responsables ni d'eux-mêmes ni de nous. Par conséquent, les droits de l'homme, ce sont les droits de cet être particulier qui est à la fois un être responsable et qui, de ce fait, se réclame des droits. Envers l'embryon, la question est la suivante. L'embryon deviendra cet être responsable qui peut se réclamer de droits spécifiques liés à cette asymétrie avec le reste de la nature. Est-ce que le fait qu'il ait le début éventuel de cet être éminemment digne lui confère une parcelle de la dignité de l'être qu'il deviendra? C'est ça exactement la question qui se pose. D'un point de vue tout à fait non religieux, j'écarte totalement l'affirmation selon laquelle l'embryon est déjà une personne à part entière qui doit être considérée comme un citoyen au sein de la cité. C'est pour moi irrecevable. Pour autant, en tant que l'embryon est le début de cette personne, le début éventuel pourrait être cette personne, il m'apparaît qu'il n'est jamais insignifiant, qu'il n'est jamais banal, et que l'on a en général la considération pour le début d'une chose admirable. Et de la même manière, l'embryon humain, s'il est le début d'une personne, doit attirer l'attention de manière assez spécifique. Ça ne me conduit pas à dire que la recherche sur l'embryon est impossible. Je suis, depuis tout temps, j'ai été commissaire de gouvernement dans la rédaction des lois de bioéthique de 92-94, membre pendant 12 ans du comité consultatif national d'éthique. Ma position n'a pas varié d'un iota sur ce point. Je dis que l'embryon n'est jamais chose banale. Je ne suis pas favorable à ce que l'on fabrique des embryons humains comme matériel même de recherche intéressante. Pour autant, même si l'on avance que l'embryon est dépositaire d'une parcelle d'humanité, ça n'est pas suffisant pour ne faire aucune recherche sur l'embryon, vu que l'on fait des recherches à tous les âges de la vie humaine, c'est ainsi que la médecine et la biologie humaine évoluent. Donc, pour quelle raison exclure uniquement l'âge embryonnaire de cette recherche? Alors, naturellement, il s'agit de prendre en compte un phénomène particulier qui est que quand on fait de la recherche sur l'embryon, on le détruit, alors que quand on fait de la recherche sur un autre âge de la vie humaine, on essaye de ne pas tuer le patient. Oui, mais la disparition de la majorité des embryons fécondés, quand bien même ils sont fécondés lors d'une étreinte amoureuse d'un homme et d'une femme, fait qu'il est difficile d'argumenter que pour un embryon surnuméraire qui ne sera jamais un petit bébé, ce soit mieux reconnaître sa spécificité de le détruire sans autre forme de procès, plutôt que de l'inclure dans un protocole expérimental dont on attend une amélioration des connaissances et éventuellement du sort biologique de l'humanité. Donc, je pense que l'embryon humain n'est jamais chose banale. Pour autant, je suis favorable à la recherche, notamment à cet âge très précoce de la vie humaine.
À partir de, par exemple, d'embryons lors de procréation médicalement assistée, c'est-à-dire l'utilisation des œufs qui n'ont été fécondés mais qui ne vont pas être implantés dans le ventre de la mère.
Voilà, ce sont les embryons surnuméraires. Dans les conditions normales d'une assistance médicale à la procréation, on obtient en général une dizaine d'ovocytes, en moyenne 6 embryons. Et bien sûr, ils ne sont pas tous replacés dans le ventre de la candidate maman. Autrement, s'ils se développaient tous, ce serait dramatique. Aujourd'hui, on tend à n'en placer que 2, des fois même 1. Et les autres, on les conserve dans l'azote liquide pour le cas où ce serait un échec, cette première tentative, afin de recommencer sans tout recommencer à zéro. La stimulation hormonale, la ponction des ovaires de la femme, etc., etc. Mais des fois, c'est un succès, cette première tentative. D'autres fois, la femme, le couple, abandonne son idée ou bien le couple se sépare. Et donc, il y a en France des dizaines, peut-être une centaine de milliers d'embryons surnuméraires. Ils ont été créés dans le but de faire un enfant. Mais comme dans le cas de l'étreinte corporelle normale entre un homme et une femme, la majorité des embryons fécondés ne seront pas des bébés. Et je dis que pour ceux qui ne seront pas des bébés, à condition que les géniteurs soient au courant et donnent leur assentiment à cela, à condition qu'une commission, la commission de biomédecine prévue par la loi de 2004, donne également son assentiment, alors je ne vois aucune objection à ce que ces embryons surnuméraires soient utilisés pour une recherche de qualité.
Je vous propose de marquer une première courte pause, Axel Kahn, et de la deuxième partie, nous parlerons de la mort, voulue ou non par l'être humain, et également de cette capacité à pouvoir faire le mal. À plus tard.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Académie. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard-Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission « Au fil des pages ». Le Bibliologue, une rubrique de Canal Académie, à écouter et télécharger sur canalacademie.com.
Deuxième partie de notre émission Éclairage, toujours en compagnie d'Axel Kahn, membre de l'Académie des sciences, généticien. Dans cette deuxième partie, nous allons évoquer votre deuxième livre, Raisonnable et humain, point d'interrogation, qui est donc une référence à une phrase de votre père. Parmi les chapitres de votre livre, un qui est consacré à l'homme devant la mort, et notamment à la liberté ou non de mourir. En d'autres termes, à l'euthanasie.
Au suicide.
Au suicide. Alors justement, vous parlez de l'affaire Imbert, nous aurons l'occasion d'en reparler. Justement, est-ce que l'on parle de liberté? Est-ce que réellement on est libre de mourir?
Vous savez, souvent on présente l'euthanasie ou le suicide comme l'ultime liberté. Et dans un sens, ce n'est pas totalement faux, vu qu'après que l'on est mort, on n'est plus en capacité d'exprimer une liberté. Donc c'est l'ultime liberté. Mais même si ça a un certain sens, on peut se demander si ce n'est pas une liberté singulière. En d'autres termes, il faut se ramener à ce qu'est une liberté. Devant la mort, imaginons que je vous dise, Madame, voilà, nous sommes bien, vous et moi, aujourd'hui, nous discutons de choses intéressantes, vous êtes séduisante, je vous regarde et vous regardez me fait plaisir. Après que nous nous sommes quittés, je vais aller dans mon laboratoire et puis ce soir, je vais avoir une rencontre importante, je crois que mes enfants doivent venir. Ce soir, je vais aller au spectacle ou bien je vais aller voir une compagne et nous nous ferons des câlins, elle et moi. Donc, ou bien alors je peux me tuer. C'est une autre possibilité, je peux me tuer. Si je pose des choses comme ça, en effet, mon suicide, la mort, est une liberté. Mais ça ne se passe jamais comme ça. Jamais. Ou alors, il faut appeler un psychiatre. Dans la réalité des choses, les gens qui veulent mourir sont dans une situation telle, physique ou psychologique, qu'ils ne voient pas ce qu'ils pourraient faire d'autre que mourir. Mais faire ce qu'on ne peut manquer de faire, ce que l'on est conduit à faire, eh ben, ce n'est pas une liberté. Si bien que dans la réalité des choses, l'ultime liberté n'est pas une liberté du tout. Et il faut déjà le reconnaître que lorsque l'on se trouve face à quelqu'un qui demande à mourir, si on lui donne la mort qu'il a réclamée, on ne lui a pas permis d'être libre. Et on ne lui a pas permis d'être libre de deux manières. La première, c'est que sa demande de mort n'exprimait pas une liberté, mais une contrainte. Deuxièmement, après qu'il est mort, il ne pourra plus manifester une liberté quelconque. Et notamment, et ça c'est fondamental, la liberté de la décision va toujours de pair avec la liberté de changer d'avis. Et ça, pour changer d'avis, la condition sine qua non, c'est d'être vivant. Une fois qu'on est mort, on ne change plus d'avis. Donc, la liberté de mourir est également singulière en ce qu'elle prive la liberté d'une de ses composantes, qui est la révision de la détermination. Il faut donc toujours aborder ce problème de la liberté de mourir avec la plus extrême circonspection. Savoir que quand quelqu'un vous demande à mourir, c'est toujours important, il demande toujours quelque chose d'angoissant. Ce qu'il nous dit, c'est « moi, vu la manière dont je vois ma vie, vu ce que je crois devoir être l'heure d'après, le jour d'après, c'est tellement épouvantable, tellement insupportable que je veux en finir là, je ne vois pas comment je pourrais faire autrement que vouloir mourir. » Si vous voulez vraiment être solidaire envers cette personne, l'exigence première, c'est de rétablir les conditions d'une vraie liberté si vous le pouvez. C'est-à-dire élargir l'éventail du choix. Indiquer à cette personne qu'en effet, elle peut persévérer dans le désir de mourir, mais que si l'on peut, on peut lui donner une raison de vivre encore un peu. Et ça, c'est très important. Aussi bien chez le malade en fin de vie, s'il souffre et qu'il veut mourir parce qu'il souffre, il faut naturellement le calmer. Si la personne âgée désespérée parce qu'elle est dans sa maison de retraite, dans le pipi pas changé ou le bassin qu'on tarde à lui passer, que personne ne vient voir, que les infirmières ou les soignantes éventuellement acariâtres, si à cette personne on offre le lendemain, l'heure d'après, le joli minois de la petite fille, la main frêle de la post-adolescente dans la main ridée et tremblante de l'aïeule, cette jeune fille disant à son aïeul de grand-mère ou d'arrière-grand-mère, « Tu sais, mamie, j'ai rencontré un garçon et je ne sais pas ce que je dois faire. Comment c'était de ton temps quand tu as rencontré papy ou d'autres hommes? Dis-moi. » Et cet aïeul se remémorerait alors et dirait à sa petite fille comment elle voit les choses. Et peut-être que cet aïeul désirerait éperdument qu'un jour de plus, deux jours de plus, permettent de connaître cela. Voilà ce qu'est la vraie solidarité offert à quelqu'un qui peut mourir.
Vous voulez dire qu'en fait, le suicide pour lui-même n'existe pas, mais que c'est plus un appel à l'aide, ou pour prendre en considération une demande d'amour, ou prendre en considération aussi la souffrance lors de la maladie, quand par exemple il y a des cancers en stade terminaux. Et d'ailleurs, vous expliquez dans votre livre que lorsqu'il y a les soins palliatifs qui sont adaptés à des personnes qui sont en fin de vie, ça peut passer de 5% de personnes qui demandent la mort à 10%, même 20%, je vois, ouais. 20% dans les cas de cancer, 20% les personnes qui n'ont pas les soins adaptés. Donc la considération de la souffrance, qui est aussi la souffrance, la douleur, hein, quelque chose de très récent en médecine, est très important dans le cadre
oui,
de cette demande.
Oui, on connaît bien tout le monde. Vraiment tout le monde a la même expérience. Quand vous avez des centres de soins palliatifs très bien faits, même des maladies très cruelles, une des plus épouvantables, plus que le cancer encore, c'est ce que l'on appelle la sclérose latérale amyotrophique, où les gens sont paralysés progressivement, puis ont des troubles de la déglutition, finissent intubés avec un tube dans l'estomac. Enfin, c'est épouvantable. C'est la maladie où la demande d'euthanasie est la plus fréquente. Eh bien, quand la prise en charge est de très très bonne qualité, même dans ces cas extrêmes, la demande d'euthanasie devient très rare en réalité. Très, très, très rare. Quand vous me dites « le vrai suicide n'existe pas », si, il existe naturellement. Mais même quand il existe, il est toujours un appel à l'aide aussi. Il est, en tout cas, une affirmation « la vie m'est insupportable ». Alors, si la vie étant insupportable, il n'y a rien à faire, la personne se suicide. Simplement, ce que je fais remarquer, c'est que quand quelqu'un vous dit la vie m'est insupportable. La meilleure réponse, au moins de première intention, n'est pas d'arrêter sa vie. C'est de faire en sorte que la vie soit plus supportable. C'est tout et c'est une évidence.
Et en cela, par exemple, pour l'affaire Humbert, vous reconnaissez dans les cas extrêmes le droit aux personnes de réclamer le droit de mourir.
Alors, ça peut se faire. Encore que dans l'affaire Humbert, comme vous savez, on est très gêné, très très gêné.
Pour ce mélange médiatique et...
Pas simplement, c'est que personne ne sait ce que voulait Vincent Humbert en réalité. C'est-à-dire que si la version de la maman, du docteur est juste, Vincent Humbert, avec un doigt, a écrit un livre, a dicté un livre dans lequel il demande à mourir de manière réitérée, et j'ai pas de raison de penser que c'est pas vrai. Cela étant dit, toute l'équipe de kinésithérapeutes, de soignants qui s'en est occupée, affirme que c'est totalement faux, que, à leur connaissance, jamais Vincent Humbert a demandé à mourir. Ils disent également que, selon eux, il en était totalement incapable, que son état psychiatrique rendait totalement impossible qu'il écrivît un livre. Alors, je n'en sais rien, honnêtement, mais cela montre que nous sommes dans un domaine sur un terrain terriblement vicié, tant les logiques militantes sont importantes, aussi bien d'ailleurs d'un camp que de l'autre. C'est il y a un drame humain au départ. Il y a cet enfant qui est dans l'état où était Vincent. Je ne sais pas ce qu'il veut. Honnêtement, je n'en sais rien. Je ne vais pas me mettre d'un camp ou de l'autre. Je n'en sais rien. Mais en réalité, ce que je sais, c'est qu'il y a deux grands courants de pensée. Ceux qui militent pour l'ultime liberté de mourir dans la dignité et de l'autre côté, ceux pour lesquels la vie est sacrée en soi, qui sont deux courants que d'ailleurs je récuse l'un et l'autre. Parce que je ne vois pas pourquoi la vie serait plus sacrée que la considération que la personne a de sa propre vie. Moi, je ne fais référence à aucune transcendance et donc à aucune sacralité. Quant à l'expression « mourir dans la dignité », elle me hérisse, car cela semblerait indiquer que la personne qui va mourir deviendrait indigne de vivre, ce qui, évidemment, est une affirmation totalement inacceptable. Et malheureusement, on se retrouve dans ce combat frontal de gladiateurs, de chiens et de chats, alors qu'on est avec la difficulté d'un problème humain. Ce que je dis dans ces conditions-là, c'est que les personnes confrontées à cela doivent essayer de trouver leur voie et de s'engager en toute responsabilité. Je ne crois pas qu'il soit bon que la loi soit modifiée. La loi dit « il est interdit de tuer ». Il y a des exceptions, la légitime défense, la guerre. Je ne suis pas favorable à ce que l'on rajoute des exceptions à l'interdiction de tuer. Cela étant dit, il y a la jurisprudence, la loi ne fait que donner les cadres. S'il s'avère qu'une personne appelée à aider à la mort d'un autre l'a fait comme une authentique démonstration de solidarité, alors il faut que la justice des hommes trouve bien vite le moyen de pardonner sans multiplier les procédures. Ça va de soi. Mais selon moi, la modification de la loi pour, dans le droit positif, commencer à énumérer d'autres exceptions à l'interdiction de tuer n'est pas une bonne chose.
Vous parlez de loi, poursuivant sur cette question de loi, notamment de la loi Perruche. Naître handicapé, est-ce un préjudice ? En d'autres termes, peut-on affirmer que l'intérêt d'un enfant handicapé gravement eût été plutôt de ne pas naître ?
L'affaire de la loi Perruche était extraordinairement emblématique de l'évolution de notre temps, des équilibres entre le judiciaire et le législatif, d'une société qui qu'il y a une dérive eugénique incontestablement. De quoi s'agit-il ? Simone Veil, 17 janvier 1975. Dans la deuxième partie de la loi Veil, elle fait adopter la loi sur l'interruption médicale de grossesse, qui indique que lorsqu'une femme enceinte a une grossesse à risque d'aboutir à un enfant atteint d'une maladie ou d'une malformation d'une particulière gravité, alors, si les moyens en existent, l'information doit lui en être donnée et cette femme peut faire connaître son désir d'interrompre le cours de la grossesse. Et cela jusqu'à son terme. Il n'y a plus de limite des 12 semaines, des 14 semaines aujourd'hui de grossesse. Jusqu'au 8e mois, il est possible de faire une interruption médicale de grossesse. Ça veut dire que, et c'est vraiment l'équilibre de la loi, deux options ont été repoussées. L'option des « la vie est sacrée de toute façon, il n'est pas question d'interrompre une grossesse ». Et l'autre position qu'on appelle celle de l'eugénisme républicain, qui consistait à dire, un peu dans une vision scientiste, au stade où en est aujourd'hui la science et la médecine, la naissance d'un enfant handicapé gravement est un échec. Et c'est à la société de prendre ses responsabilités et de l'empêcher. Et donc la femme n'a pas à donner son avis, il faut l'empêcher. Non, la loi a dit, dans cette tragédie qu'est la grossesse à risque, personne n'est plus justifié à savoir ce qu'il convient de faire que la femme. Donc, il faut l'informer. Autrement, si on n'est pas informé, on ne peut pas exprimer sa liberté et prendre en compte sa volonté.
C'est sa seule responsabilité.
Voilà, c'est elle qui a la responsabilité principale. Ce n'est pas sa seule responsabilité. C'est elle qui a la responsabilité principale. Ce qui est vrai, parce que même, on aurait pu dire le couple, mais dans la réalité des choses, près d'une fois sur deux, quand la femme accouche d'un enfant très mal formé, tôt ou tard, le mec, il fout le camp. Et elle se retrouve seule avec le gamin. Dans à peu près la moitié des cas, d'après les statistiques. Donc, il est raisonnable de voir que celle qui sera le plus concernée par cette naissance, c'est la femme. Alors, naturellement, dans un couple uni, elle va en décider avec son conjoint, bien entendu. Mais la loi dit la femme, et je crois qu'il est juste que la femme soit au centre du dispositif de la loi. L'affaire Perruche disait que Nicolas Perruche, par conséquent, qui était né parce que la maman n'avait pas été informée qu'elle avait été atteinte durant la grossesse d'une rubéole. Il y avait eu une faute de diagnostic. Donc, il n'y avait pas d'erreur médicale ayant entraîné la malformation, mais la femme n'avait pas été informée. Nicolas Perruche était très, très gravement atteint. Et le problème était, quelle est la responsabilité et quel est le préjudice? Alors, ce sur quoi il n'y a pas de discussion, c'est que médecin fautif devait naturellement indemniser les parents. Car les parents, d'après la loi, devaient être informés pour exprimer une liberté. Ayant été faussement informés, ils n'ont pu exprimer une liberté et ils ont perdu une chance d'exprimer ce qu'ils désiraient. Donc, honnêtement, il faut absolument qu'ils soient indemnisés. Mais ensuite, la question est, et Nicolas Perruche? Après de très nombreux allers et retours judiciaires, la Cour de cassation, en 2001, a statué, ou en 2000, je ne me rappelle plus, a statué que le médecin fautif devait indemniser Nicolas Perruche sa vie durant. Et puis, il y a eu toute une jurisprudence où la Cour de cassation a confirmé son avis. Et in fine, à la fin 2001, elle disait que de la même manière, un laboratoire coupable d'une erreur de détection de la trisomie 21 devait indemniser les enfants trisomiques leur vie durant. Et elle précisait, afin de pouvoir réparer leur préjudice esthétique et mental. Alors, je vais un peu le présenter de manière plus brutale. La Cour de cassation considérait que ces enfants étant laids et étant sots, la vie leur était préjudice et qu'il fallait donc indemniser le mal qu'on leur avait fait en les laissant vivre laids et sots. Fort bien. Sauf que la loi Veil autorise la mère à demander à ce que ses enfants viennent au monde. Si cette jurisprudence allait jusqu'à son terme, quel regard la société jette-t-elle sur la mère qui, sachant que les enfants qu'elle va laisser vivre auront une vie qui leur sera préjudice, car ils seront laids et sots, et qui néanmoins, en connaissance de cause, et elle en connaissance de cause, pas par erreur, en connaissance de cause, a décidé de leur donner le jour. La totalité de cette jurisprudence arrivait à stigmatiser la mère. Et elle était stigmatisée, parce que la société disait, écoutez madame, Vous serez indemnisé correctement uniquement si vous n'avez pas avorté car vous n'avez pas été informé. En revanche, si vous n'avez pas été si vous n'avez pas avorté quoi qu'étant informé, alors là, vous n'aurez rien. Et ça, c'était une dérive jurisprudentielle qui arrivait à contredire totalement, totalement ce qu'avait voulu le législateur en 75. Et donc, je me suis battu de toutes mes forces réellement dans cette affaire-là. Et je considère que la loi interdisant la pérennité de cette jurisprudence est une victoire.
Et sinon, conduisait à une sorte d'eugénisme, entre guillemets ?
Ah ben oui, c'est évident, parce que... mais toute la société l'est, en réalité. L'eugénisme, de toute façon, malheureusement, il existe. Ce risque-là, on le voit dans l'échographie. L'échographie, c'est merveilleux parce que ça permet de détecter des anomalies, ça permet d'avoir, avant la naissance, pour les parents, la première photographie de bébé, avec ses petits doigts, on voit s'il a un petit zizi, s'il n'en a pas, c'est un garçon, une fille, etc. Mais des fois, c'est plus inquiétant. Alors, des fois, il y a des signes ambigus. Ils disent rien de très particulier, mais on sait que quand on voit ce signe, une nuque blanche, une nuque épaisse, la fréquence des trisomies 21, par exemple, est plus importante. Il y a 5 risques sur 100, au lieu de 1 sur 100, il y a 5 risques sur 100 que l'enfant soit trisomique. Mais il y en a 95% pour qu'il ne le soit pas. Mm-hmm. Jadis, les thérapeutes, les échographistes, ne disaient rien au couple. Parce qu'on va transformer une grossesse pleine d'espoir et heureuse
en un
enfer, une attente angoissée, etc. Mais avec le risque ici que si jamais un enfant trisomique naît, que la femme, le couple, est en justice contre le professionnel. Aujourd'hui, les échographistes disent systématiquement, dès qu'ils voient quelque chose, ils le disent. Aucun problème. Et la conséquence, on la connaît, c'est que très souvent, les couples, eh bien, plutôt que de courir ce risque-là, eh bien, ils interrompent une grossesse qui, dans 95% des cas, eût été une grossesse d'un enfant normal. Voilà ce à quoi a abouti ce type de comportement.
Je vous propose de marquer une seconde courte pause, Axel Kahn. Et dans la troisième partie, je vous propose de parler de votre troisième livre et auparavant, de parler également de l'humain et de l'inhumain. À tout de suite.
Les membres de l'Académie française et d'autres académies, des écrivains de tous horizons, des grands lecteurs venus du monde de l'édition et de la traduction, ou encore des artistes, nous parlent de leur coup de cœur littéraire dans l'émission Au plaisir d'insolence, animée par Elisabeth Antebi. Restituer le plaisir de lire, de rêver, de laisser se déployer les mots, revivre les discussions à bâtons rompus, nourries de lectures croisées des salons d'autrefois. S'amuser, s'émouvoir, faire parler un écrivain qui marque notre mémoire, notre vie, ou parler d'une œuvre qui a trouvé en nous des échos. Tel est le projet de cette émission Au plaisir d'insolence, à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie d'Axel Kahn. Dans cette troisième partie, Axel Kahn, nous allons nous baser sur votre troisième livre. Auparavant, comme je le disais avant cette pause, je vous propose de parler de l'humain et de l'inhumain, et notamment de cette capacité des hommes par rapport aux animaux de faire le mal gratuitement.
Je crois que c'est le prix à payer malheureusement pour la liberté ou le sentiment de la liberté. Si l'homme était programmé pour n'utiliser ses pouvoirs qu'au profit des autres hommes, ni le bien ni le mal n'existeraient, il n'y aurait que l'exercice, l'expression de la nature humaine. Un homme bon, ça serait un homme normal, puisqu'il serait programmé pour être bon. La liberté a une contrepartie, une exigence. C'est qu'un être libre a à déterminer librement l'usage qu'il va réserver à ses pouvoirs. Et par conséquent, de manière presque consubstantielle à cette notion de liberté, un être qui se pense libre va pouvoir utiliser ce qu'il peut faire au bénéfice ou au détriment des autres. Et par conséquent, la liberté entraîne la possibilité du mal. Mais ça entraîne le bien aussi. Car si la possibilité du mal n'existait pas, il n'y aurait pas de bien. La condition de la vie morale, du bien et du mal, c'est la liberté. Ça, il faut bien le retenir. Deuxième élément, parmi le mal que l'on peut faire, le mal absolu, c'est l'inhumanité. Et seul l'homme peut être inhumain, d'abord parce que seul l'homme est libre, mais aussi parce que l'inhumanité correspond à ce comportement pervers d'un agresseur qui jouit de la souffrance qu'il crée, de la détresse qu'il provoque, de l'angoisse qu'il inspire. Il s'imagine ce que sont les pensées de sa victime et c'est un facteur de jouissance. Or, seul l'homme peut prêter des pensées à ce point, en tout cas à autrui. Donc l'inhumanité est en effet le propre de l'homme. Seul l'homme peut être inhumain.
Et vous donnez d'ailleurs un exemple, toujours dans le deuxième livre de votre trilogie, « Raisonnable et humain », vous parlez d'un test célèbre où on met deux personnes, une première qui va poser des questions, l'autre qui va répondre, la deuxième répond bien, il ne se passe rien. Si, en revanche, elle répond mal, au début, il y a un petit courant électrique et au fur et à mesure des mauvaises réponses, le courant électrique va s'intensifier. Alors, le courant électrique, en fait, il est fictif, mais la personne qui donne ces petits courants ne le sait pas, enfin, donne cette ne le sait pas, et vous expliquez qu'effectivement, si à la fin de l'exercice, si réellement il y avait eu un courant électrique, la personne se serait retrouvée électrocutée.
Absolument, c'est un test qui est extrêmement célèbre et qui procède un peu du mécanisme que j'ai dit. Vous avez donc fictivement une victime qui se prête à un test et un conducteur du test. Le conducteur du test ne sait pas que c'est fictif. Et il punit en quelque sorte, celui qui l'interroge quand il répond mal. Et la punition est de plus en plus forte, c'est un courant électrique, lorsqu'il persiste à répondre mal. Ce qui se passe dans cette affaire-là, il y a plusieurs éléments, mais notamment ce qui se passe, c'est une indignation pour cette manière dont pense la victime qui est insupportable et qui amène à totalement annihiler. Alors ça, c'est pas le plaisir de la douleur, si vous voulez. C'est un phénomène de violence qui est produit par l'indignation de ce qui est hors la norme. C'est-à-dire le type qui répond toujours mal, il est hors d'une norme, une norme qui est liée à l'humanité. Et cela provoque une indignation contre un scandale. Et seul l'homme, naturellement, peut établir une norme. Et il est très intéressant, effectivement, d'observer les résultats de ce test.
Dans votre troisième livre, vous parlez du rapport avec les autres. On en a déjà parlé au tout début de cette émission, que l'homme a besoin du regard de l'autre, de l'amour de l'autre pour exister à travers cette espèce de miroir déformant. Alors justement, par rapport à l'autre, est-ce qu'il y a une place pour ceux qui sont difformes ? Est-ce qu'on laisse une place à ceux qui sont différents de nous ?
Le problème de la différence est une extension de celui que l'on a abordé à propos du racisme. C'est l'acceptation de la différence. Le sentiment naturel de connivence, de respect dû, on l'a envers les siens, ceux que l'on reconnaît comme appartenant au même monde que le nôtre, de la même forme, de la même couleur, éventuellement du même pays, du même patelin, de la même religion, des mêmes habitudes, etc., etc. Et il y a vis-à-vis des autres, suivant les cas, un peu d'intérêt curieux ou bien de méfiance, car ce que l'on ne connaît pas peut devenir dangereux et puis peut s'opposer à une norme et indigner. C'est l'autre élément auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. De ce point de vue-là, la monstruosité, la difformité, c'est une forme de différence extrême. Et en tant qu'autrui est toujours un peu un miroir déformant, mais un miroir quand même, le monstre est un miroir peu valorisant de l'humanité de celui qui se mire dedans. Et donc, il crée un sentiment de gêne, de répulsion, qui peut ne pas favoriser l'accueil. Et de fait, je crois qu'il faut appréhender cette relation à la différence extrême qu'est la monstruosité à travers cette analyse. Le meilleur film qui rend compte de cela, qui est un chef-d'œuvre à nul autre pareil, c'est Freaks, naturellement, qui est extraordinaire.
À l'inverse de la répulsion, l'amitié. Est-ce qu'il existe une amitié chez les animaux avant qu'elle n'arrive chez l'homme ?
Oui.
Vous parlez de vos chevaux, d'ailleurs, dans votre livre.
Oui, je suis cavalier. J'ai une grande expérience des chevaux. J'ai dirigé un club hippique. J'ai passé des heures et des heures à observer en semi-liberté, à la pâture, les chevaux. Et ce fut une source d'inspiration. Mais j'ai beaucoup vécu avec des animaux. Donc, mon inspiration vient également de mes connaissances livresques, de l'éthologie, mais aussi vraiment de mon observation réelle sur le vif du monde animal. Il y a plusieurs dimensions à l'amitié. Une des dimensions, c'est une attraction élective amenant à un comportement mutuellement avantageux.
On n'est pas amis par gratuité. Enfin, c'est pas gratuit. L'acte
oui,
n'est pas gratuit.
Il semble. Alors, c'est difficile parce que peut-être qu'on est mutuellement avantageux parce qu'il y a une certaine attraction. En d'autres termes, vous m'avez parlé des chevaux. Quand vous avez une dizaine de juments, s'il y a un mâle, ça change des choses. Mais une dizaine de juments en pâture, vous voyez très bien que elles forment des petits groupes de connivence et puis des espèces de couples. Et ces juments amis, très volontiers, en plein été, se mettent tête bêche, de manière à se faire un peu de l'ombre l'une l'autre et à se débarrasser mutuellement au niveau de la tête des mouches grâce à leur queue. Mais elles ne le font pas avec les autres. Donc, est-ce qu'elles sont amies parce qu'elles s'entraident ou alors est-ce qu'elles s'entraident parce qu'elles sont amies et attirées l'une par l'autre? C'est bien difficile à dire. Mais ce type d'amitié n'est pas spécifiquement humain. Je veux dire, ça veut dire que le type de camaraderie, de connivence que l'on va avoir avec un ami de bureau, d'atelier, de studio, de radio, que sais-je, peut très bien être totalement dénué d'une amitié spécifique et être un cas humain un peu spécial d'une amitié animale très générale et qui n'est pas spécifiquement humaine. Et puis, un degré de plus, il y a l'amitié fusionnelle, qui est l'amitié de Montaigne et de la Boétie. Pourquoi l'aimais-je? Pourquoi m'aimait-il? Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Cette impression que l'absence de l'ami est un manque, parce que une dimension de son être est fusionnelle et procède également de l'autre, si bien que l'autre étant absent, il y a une amputation réellement de soi. L'équilibre, la sérénité, c'est avec l'ami qu'on la rencontre. Ce type d'amitié était totalement lié à la mise en commun de la pensée, une pensée commune. Et ça ne peut être qu'humain, naturellement. Et cette amitié fusionnelle est l'un des éléments, naturellement, de l'amour. Lorsque cette amitié fusionnelle s'associe à l'attrait sexuel, au plaisir partagé, on va dire que c'est une relation amoureuse. D'ailleurs, la relation amoureuse peut connaître le plaisir, l'attraction partagée, sans comporter l'amitié fusionnelle. Mais les relations en couple qui sont les plus durables sont celles qui procèdent de l'amitié fusionnelle, plus de l'attraction, plus du plaisir partagé, naturellement.
Ça, c'est pour le rapport avec l'autre. Dans le rapport avec ses propres enfants, est-ce que les gènes nous induisent ou non dans un comportement maternel ou paternel? Vous parlez de l'exemple de la souris, où quand on inhibe un gène, elle va avoir un comportement plus ou moins intéressant concernant ses sourisseaux.
Bien évidemment, le comportement maternel est génétiquement déterminé. Mais comment pourrait-il en aller autrement? Réfléchissons donc. Imaginons une femelle qui ne s'occupe pas de ses petits. Ses petits mourraient et le lignage disparaîtrait. Si bien que les traits qui permettent à la femelle, qui induisent chez la femelle de s'occuper des petits, sont la condition sine qua non de la survie des petits et par conséquent la condition de perpétuation de l'espèce. Donc ça, c'est tout le phénomène de l'évolution. Et en effet, comme ce comportement est génétiquement déterminé, il est possible de casser certains gènes qui sont des constituants de la mécanique compliquée assurant ce comportement. Il peut être perturbé et d'ailleurs, il entraîne la mort des petits.
Mais qu'en est-il de l'adoption alors? Puisque les parents, là par exemple...
Je parle des souris, je ne parle pas des hommes et des femmes.
Voilà, mais chez les animaux, existe-t-il des cas, entre guillemets, d'adoption?
Oui, mais c'est en trompant les femelles en général. Je sais comment faire pour adopter un poulain dont la mère est morte par une autre pouliche, une autre jument qui vient d'accoucher. Je prends le petit poulain, je prends de l'urine de la mère adoptive que j'ai choisie, j'enduis le poulain d'urine et ainsi la femelle va considérer que c'est le sien et elle va s'en occuper. Donc, je crois qu'il n'y a rien d'affectif ici. Il y a simplement une ruse que j'utilise afin que la jument ne fasse pas la différence entre le fruit de ses entrailles et ce petit. Les deux ont la même odeur, ont les mêmes stigmates. Chez l'homme et la femme, les choses sont différentes. Pourquoi sont-elles différentes? C'est que la force des empreintes mentales va devenir fondamentale. En d'autres termes, dans la famille humaine, il y a deux racines. Il y a la racine classique, animale, l'étreinte d'un mâle et d'une femelle, d'un homme et d'une femme aboutit à des enfants, et ce sont les enfants du couple, les enfants de la famille. Mais plus généralement, quand bien même ces enfants ne viennent ni d'une étreinte, ni d'une fécondation in vitro, mais de la fécondation de la femme par un sperme de donneur, ou bien alors de l'adoption, on a un ensemble d'enfants et d'adultes. Les adultes qui regardent des enfants comme leurs enfants et qui les aiment, la filiation par le cœur, par l'esprit. Des enfants qui regardent des adultes comme leurs parents et qui les aiment, ça constitue aussi une famille humaine. Et cette famille humaine procède de cette image mentale affective qui peut s'imposer et prendre le relais de la filiation par le sang. C'est toute l'importance due à la complexification des mécanismes mentaux, du déterminant purement psychique des comportements humains.
Eh bien, je vous remercie, Axel Kahn. Je crois que je dois vous libérer puisque le temps passe. Je rappelle quand même les titres de vos trois livres. Le premier est L'homme dans tout ça, donc édition rééditée chez Pocket, édition de poche. Le deuxième, Raisonnable et humain, toujours réédité édition de poche Pocket. Et puis le troisième, le dernier, L'homme se rose au poisson, édité chez Niels.
Il est lui aussi disponible chez Pocket maintenant.
Eh bien voilà, l'information est donnée. Merci beaucoup Axel Kahn de nous avoir rendu visite. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé, mais j'espère quand même à une prochaine fois pour une nouvelle émission. À très vite, au revoir.
Au revoir.